Hausse des cambriolages, des incendies volontaires et des violences intrafamiliales, les chiffres de la délinquance des 6 premiers mois de l'année ont été présentés cet après-midi. Ils traduisent un sentiment d'insécurité croissant chez les Calédoniens. La situation de la SLN reste très fragile, mais elle est stabilisée. C'est le message que les responsables de l'industriel ont fait passer ce matin devant la presse. Une journée découverte au Medipôle. Des professionnels du milieu hospitalier étaient présents aujourd'hui pour présenter leur métier à de jeunes lycéens. Et puis le sport et le rallye avec le rallye de Nessa Diou qui aura lieu samedi. 14 équipages seront en lice pour ce deuxième rendez-vous de la saison à Bouraï. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Les faits de cambriolage de résidence, d'incendie volontaire ou de violence intrafamiliale sont donc en hausse. La situation sécuritaire du territoire a fait l'objet d'une réunion cet après-midi dans l'hémicycle de la province sud. Les chiffres pointent une augmentation des faits violents pour le premier semestre 2025. Charlotte Coulson.
La situation reste tendue dans un contexte post-crise encore marqué par les violences urbaines de mai 2024. Ce sont les mots du haut-commissaire Jacques Billon pour introduire ce bilan de la délinquance. En effet, plusieurs points majeurs sont à retenir. En premier lieu, une hausse du sentiment d'insécurité des Calédoniens, alors même que les faits de délinquance dits classiques sont comparables à ceux observés au premier semestre de l'année 2023, année de référence pour ce bilan. Comment expliquer ce sentiment d'insécurité ? Le haut-commissaire parle d'une délinquance de plus en plus décomplexée et surtout d'une violence banalisée.
Je reviens sur deux points essentiels. C'est une progression des faits violents. Les atteintes contre les agents dépositaires de l'autorité publique connaissent une hausse préoccupante, c'est plus 100% par rapport à la même période de 2023. Ce sont des outrages, ce sont des jets de projectiles, ce sont des agressions. Ce sont 110 policiers et gendarmes qui ont malheureusement été blessés dans ce cadre depuis le début de l'année. Deuxième élément important concernant ces faits violents, ce sont les incendies volontaires qui ont quasiment doublé. Presque 84% par rapport à 2023 et qui apparaissent malheureusement aujourd'hui comme un mode d'action récurrent dans certains quartiers. Et ces incendies volontaires sont à mettre en rapport avec des actes de dégradation, des tentatives de blocage de voies publiques et qui sont le signe d'une contestation persistante dans différents quartiers, en différents points du territoire.
Les violences intrafamiliales ont également fait l'objet d'une attention particulière. Elles sont en hausse constante, plus 12% de faits constatés au 30 juin 2025 par rapport à 2023. Les femmes restent les principales victimes et les mineurs occupent une place croissante chez les personnes touchées. Cette problématique reste un fléau selon le procureur de la République, Yves Dupin.
Nous avons environ 8 faits pour 1000 habitants en Nouvelle-Calédonie de violences intrafamiliales. C'est le double de celui de l'Hexagone. Ça reste une priorité de la justice. Nous avons développé un certain nombre d'outils depuis quelques années. C'est d'abord accompagner les victimes. C'est aussi pour la justice donner des réponses pénales fermes pour les actes les plus graves, mais mettre en œuvre aussi des outils de prévention de la récidive, avec notamment depuis 2021 ce stage de sensibilisation, de responsabilisation des auteurs de violences conjugales. Et puis nous avons ouvert ce centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales et qui présente un bilan tout à fait satisfaisant dans la prévention de la récidive.
Et pour apporter une réponse cohérente, il faut que l'engagement soit collectif, selon le haut-commissaire Jacques Billon. La réunion de cet après-midi a donc rassemblé l'ensemble des maires de la province sud, l'État, le gouvernement, mais aussi les représentants de la police et de la gendarmerie. L'occasion pour la présidente de la province sud, Sonia Baquès, de présenter le plan provincial de prévention de la délinquance. Il s'articule autour de 30 actions concrètes pour la période de 2025 à 2028, réparties autour de 5 axes prioritaires.
Ces plans sont importants parce qu'ils permettent d'abord d'entendre les problématiques très concrètes des maires qui sont en première ligne de la problématique de la délinquance et d'y apporter des réponses concrètes. C'est ce qu'on fait avec ce plan. On a des vrais focus nécessaires. On a la question des mineurs que j'ai abordée avec un travail sur l'errance des mineurs. On a un gros travail sur l'alcool. On a une façon de consommer en Nouvelle-Calédonie qui pose des problèmes de violence. Et je pense qu'on va réussir à avoir des mesures concrètes. Vous savez que depuis une dizaine d'années, je défends le fait d'avoir un fichier pour interdire la consommation d'alcool aux personnes qui ont commis des délits sous l'emprise de l'alcool. Ça fait partie des priorités. J'en ai parlé également, les cambriolages, c'est très dur pour les gens qui sont victimes. Et donc là, on travaille sur des réponses très concrètes travaille sur une appli pour dire qu'on est en danger, on travaille sur l'identification des plaques d'immatriculation. Voilà, on travaille sur des mesures très concrètes en réponse à ça.
Un plan qui cherche également à promouvoir la citoyenneté, notamment chez les jeunes, en encourageant le développement de dispositifs tels que le RSMA, le SNU ou encore les services civiques. Le plan provincial de prévention de la délinquance sera soumis à l'Assemblée de la Province Sud le 11 septembre prochain.
Et en lien avec cette actualité, notez ce rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. C'est le procureur de la République, Yves Dupas, qui sera notre invité du matin, demain à 7h30. Nous reviendrons avec lui sur ce bilan de la délinquance au premier semestre de l'année 2025. L'occasion également d'aborder les réponses que la justice peut apporter à ces faits de violence. Yves Dupas, invité du matin sur Radio Rythme Bleu, c'est demain à 7h30. Autre rendez-vous d'antenne, nous reviendrons demain midi sur l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, signé le 12 juillet à Bougival. C'est Victor Toutougour, le président de l'UPM, qui a participé aux négociations au sein de la délégation unie et qui a signé cet accord, qui sera l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur le contenu de ce document, sur les raisons pour lesquelles il l'a signé et sur les réactions qu'il suscite, notamment dans le camp indépendantiste. Victor Toutougourou, invité de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Au chapitre des faits divers, on l'a appris ce matin, le Poney Club de L'Étrier à Rivière-Salée vandalisé et cambriolé le week-end dernier. Dans la nuit de samedi à dimanche, des témoins ont pu apercevoir une vingtaine de personnes sortir du site. Les voleurs ont forcé un volet métallique du clubhouse avant de vider les frigos et congélateur. Une enceinte portable a également été volée. Et puis, la chasse à la roussette, c'est stop. La gendarmerie en Nouvelle-Calédonie communique sur ses réseaux sociaux. Un contrôle s'est tenu à Conné pour lutter contre le braconnage d'espèces protégées. Et bilan de ce contrôle coordonné avec les gardes nature et les douaniers. Une seule infraction constatée pour chasse interdite et deux roussettes saisies sur les 23 véhicules et 23 personnes contrôlées. Pour rappel, la chasse à la roussette n'est autorisée que les week-ends du mois d'avril.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. L'adoption d'une charte de la vie nocturne peut-elle, selon vous, contribuer efficacement à la lutte contre l'alcoolisme? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier. Au lendemain du forum qui s'est réuni à l'UNC, 65% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la Nouvelle-Calédonie est suffisamment préparée au changement climatique. Ils sont 35% à penser que ce n'est pas le cas. Rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. La défense du général Marquis Lekia réagit à la décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de mettre fin à ses fonctions de directeur de la sécurité civile. L'arrêté qui le démet de ses fonctions lui a été remis le 16 juillet dernier, mais son avocate, maître Nathalie Lepape, dénonce Elisabeth Noir, notamment un non-respect de la procédure.
Le général Marquis Lekia dirigeait la DSCGR depuis 2020 et il avait été suspendu de ses fonctions il y a 4 mois après que 2 plaintes aient été déposées contre lui pour malversation financière et harcèlement moral. C'est mercredi dernier, le 16 juillet, qu'il a été officiellement démis de ses fonctions par un arrêté du gouvernement qui lui a été remis en main propre. Son avocate, Maître Lepape, dénonce un non-respect de la procédure puisque le général Marquis Lekia, explique-t-elle, n'a pas été entendu lors de l'audit qui a été réalisé, qu'il n'a été auditionné ni par le gouvernement ni par le parquet et qu'il n'a pas eu accès à son dossier. Mais elle affirme que tout cela ne l'a pas surpris.
Nous n'avons pas véritablement été surpris parce que nous suspections bien qu'au retour de M. Marquis Lekia le 16 juillet, il se passerait quelque chose. Mais nous ne pensions pas que le gouvernement oserait mettre fin aux fonctions d'une personne qui n'a pas été entendue par le procureur ni par les services de police et qui n'a pas été entendue par le gouvernement ou ses services non plus. À son retour à son bureau le 16 juillet, il a eu la désagréable surprise de constater, alors qu'il était accompagné d'un huissier de justice, de constater qu'il n'y avait plus de téléphone dans son bureau, plus son ordinateur, et que dès sa suspension du mois de mars, il n'avait plus eu accès ni à son téléphone professionnel, ni à sa boîte mail professionnelle, ni à son dossier, ni à quoi que ce soit, aux plateformes dédiées, etc.
Dans l'arrêté du gouvernement qui met fin à ses fonctions, il est reproché au général Marquis Lekia des manquements graves à ses obligations professionnelles, comme le délit de favoritisme, de détournement de biens ou de fonds publics et de faux et usage de faux. Le désormais ex-directeur de la sécurité civile dément complètement toutes ces accusations et son avocate dénonce un véritable acharnement.
Je voudrais aussi dénoncer le zèle avec lequel on s'acharne presque sur un homme à qui on doit quand même d'avoir géré la crise sanitaire, les émeutes aussi en partie pour tout ce qui est santé, bien sûr avec les personnels, etc. Et je m'insurge du traitement qui lui est fait humainement aussi.
Quels sont les recours dont il dispose aujourd'hui? Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mener?
Nous avons de multiples recours. Nous avions indiqué que nous porterions plainte au pénal, ce qui a été fait. Je vais dans les prochains jours abonder cette plainte, c'est-à-dire la compléter. Nous allons bien évidemment mener une action auprès du tribunal administratif dans les tout prochains jours également. Et puis, nous évoquerons aussi la possibilité d'une procédure au civil compte tenu de ses nombreuses atteintes à la liberté et des répercussions sur sa carrière, sur celle de son épouse et de ses enfants également.
Maître Le Pape indique que son client se sent aujourd'hui trahi par des gens avec lesquels il a travaillé de nombreuses années, mais qu'il est bien décidé à aller jusqu'au bout des procédures judiciaires entamées. J'ajoute que dans un premier temps, c'est l'adjoint au général Marquis d'Equia, Victor Letézer, qui a assuré l'intérim. Mais hier, lors de sa séance hebdomadaire, le gouvernement a nommé Gwendal Cambon comme directeur par intérim de la sécurité civile et de la gestion des risques de Nouvelle-Calédonie pour une durée de 3 mois, un service qui pourrait d'ailleurs être réorganisé étant donné l'ambiance de travail qui prévaut, notamment depuis le déclenchement de cette affaire.
Il est 17h56, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous, dans un instant nous reviendrons sur la situation à la SLN.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Info soir, Lionel Sabot.
La situation de la SLN reste très fragile, mais elle est stabilisée. C'est le message que les responsables de l'industriel ont fait passer ce matin. La production est en deçà de ce qu'elle devrait être. La capacité financière donne une visibilité jusqu'à la fin de l'année seulement. Le directeur général, Guillaume Curec, a également évoqué, Jean-François Baudin, les défis de la filière.
Alors actuellement, Doniambo fonctionne à 75% de sa capacité avec une production de 3000 tonnes de minerais par mois, alors qu'elle pourrait atteindre 4000 tonnes. Si les sites de la côte ouest fonctionnent de façon nominale, ceux de la côte est restent en grande partie à l'arrêt, a expliqué Guillaume Curec.
Nos sites de la côte est restent sans production réelle. Nous avons la chance d'avoir le site de Porot-Bonigny qui alimente un petit peu notre usine de Doniambo. En revanche, tous nos autres sites, le site de Française, anciennement exploité par le centre école du CFTMC, est complètement à l'arrêt. Le site de Kouawa tourne sur mine, mais nous ne pouvons pas évacuer vers le bord de mer et donc pas de minerai ne part de ce site vers l'usine de Doniambo. Et comme vous le savez, la mine de Thiot a été lourdement impactée lors des émeutes. Nous avons repris contact avec les différentes parties prenantes sur Thiot, mené des états des lieux, y compris en présence de la DIMINC, en présence des coutumiers, de la mairie. Et on est en phase de réparation, de reconstruction. Ça va prendre beaucoup de temps. Dans nos priorités, les travaux d'environnement sont à mener urgemment, et la réfection de la route municipale doit être également engagée dans les prochaines semaines.
Rappelons que les 184 salariés du site de Thiot ont été placés au chômage après les émeutes. La SLN va donc mener des travaux environnementaux. Il faudra aussi reconstruire les bâtiments détruits ou fortement endommagés, reconstruire le réseau électrique ou encore réparer les engins sur mine. Une éventuelle reprise de l'activité sur Thiot est envisagée dans le courant de l'année 2026. Cette altération du fonctionnement des sites miniers de la côte Est pénalise donc la production, mais elle a aussi des impacts financiers.
Nous sommes dans une situation de perte significative. Nous avons eu un soutien de l'État français au mois d'avril qui va nous permettre de tenir jusqu'à la fin de l'année, pas au-delà. Et donc on est d'ores et déjà en train de travailler avec le groupe Eramet, avec l'État, sur toutes les possibilités, toutes les options possibles pour sécuriser notre situation sur l'année 2026 et au-delà.
L'occasion pour Guillaume Curec de rappeler qu'Eramet reste engagé avec la SLN, même si le groupe a annoncé qu'il arrêtait son soutien financier à sa filiale calédonienne. Mais Eramet reste l'actionnaire majoritaire à 56% et soutient la partie opérationnelle de façon significative, a tenu à rappeler le directeur général de la SLN.
C'est notre maison mère qui continue à nous soutenir sans financement direct, tout le monde le sait et l'a bien compris, ça a été dit, répété, expliqué, mais nous soutient opérationnellement de façon très importante avec financement de notre ferro-nickel à peine embarqué sur les bateaux, il nous est déjà payé, avec des lignes de crédit de découvert autorisées extrêmement importantes, avec des facilités de paiement également sur notre dernier bateau de fuel de l'année qui est quand même pour un montant de 4 milliards chaque année, et donc beaucoup de soutien opérationnel au quotidien de la part de cet acteur industriel. Donc ça ne change pas et c'est toujours en place, heureusement pour nous.
Les responsables de la SLN ont participé avec les autres acteurs de la filière aux réunions qui ont eu lieu en marge des discussions à Bougival, notamment lors du Collège économique et sociétal. L'une des conditions d'une éventuelle reprise du secteur passera par la question de l'énergie. Elle représente aujourd'hui 60% des coûts de production de la SLN. La centrale à costée temporaire, la CAT, pourrait jouer un rôle de centrale calédonienne. C'est en tout cas l'une des solutions à l'étude. Le point positif des échanges de ces derniers mois et dernières semaines, notamment autour de Bougival, c'est qu'aujourd'hui les acteurs réfléchissent en termes de filière pour l'avenir, a souligné Guillaume Curec, et plus seulement en fonction de leur propre développement.
Tous ensemble, on parle de filière nickel. On ne parle plus seulement des situations individuelles de telle ou telle entreprise et on essaye vraiment de trouver l'optimum global pour permettre un avenir de cette filière de transformation en Nouvelle-Calédonie. Des synergies sont obligatoires entre opérateurs. Elles peuvent être difficiles parfois. On en cherche avec Prony. Elles ne sont pas forcément si simples que ça sur le plan technique, opérationnel. Nous avons des échanges en termes de pièces, de solutions de maintenance ou autres, mais vraiment sur le flux de minerais, sur la chaîne de valeur elle-même, elles sont assez difficiles. Elles peuvent être plus évidentes avec Cognambo. Et donc, on essaye d'avancer les uns vers les autres pour essayer de regarder ce qui peut se mettre en place, sachant qu'on est tous aussi avec des gouvernances à respecter et des positions à respecter. Donc, ça peut prendre un certain temps, mais on pense beaucoup aux différents salariés qui pourraient maintenir leur emploi ou retrouver de l'emploi en fonction des situations.
Et notez que Guillaume Curec a présenté ce matin le nouveau secrétaire général de la SLN, arrivé début juin à Eramet pour prendre la suite de Nathalie Bakache. Il s'agit de Christophe Léninger. Après une carrière dans le privé, il a rejoint les cabinets de deux anciens premiers ministres, Elisabeth Borne puis Gabriel Attal. Il était ces trois dernières années dans le cabinet du président de la République comme conseiller énergie.
En bref, un incendie sur le site Contract Mine à Poya. Un représentant du centre NMC a déposé plainte en fin de matinée à la gendarmerie. Il signalait l'incendie de deux Algeco sur le site de la Presqu'île. Des gendarmes se sont déplacés, ont constaté l'incendie des deux Algeco superposés, des vestiaires pour les employés qui chargent le minerai. Une enquête est en cours. Journée découverte au Medipôle, des professionnels du milieu hospitalier étaient réunis pour présenter leur métier à de jeunes lycéens. Sur le territoire, ce sont près de 3000 personnes qui travaillent dans ce secteur, dans les domaines du soin, mais pas seulement, Charlotte Coulson.
Que ce soit le médical, le paramédical, la technique, la sécurité ou même l'administration, de nombreux métiers du milieu hospitalier sont méconnus. D'où l'importance de cet événement qui met en lumière des spécialités telles que l'endoscopie, la stérilisation ou encore la néonatologie. Un service dans lequel travaillent Mike, Jennifer et Léa en tant qu'infirmiers et auxiliaires puéricultrices.
Il y a des examens ou c'est vraiment la fin de troisième année?
La formation, c'est sur 3 ans. Tu as 2 semestres par an.
On est venu se renseigner sur les métiers pour notre futur. Alors c'est net cette journée parce que moi je savais pas qu'est-ce que je voulais faire plus tard et du coup ça m'a informé de plus, ça m'a donné des informations.
Le stand d'infirmière, déjà c'est un métier qui m'intéresse beaucoup, comme c'est dans le domaine de la santé.
T'as posé pas mal de questions?
Oui, surtout pour Parcoursup parce que on sait pas trop s'ils sont très sévères ou si c'est comment, mais ils nous ont un peu rassurés, du coup ça nous pousse à aller au Parcoursup aussi.
Là la dame avec qui tu discutais, elle est étudiante?
Oui, étudiante en 3e année. Elle nous a donné des conseils, elle explique très bien, elle nous a bien motivés.
Il y a beaucoup de personnes qui nous donnent des informations sur les métiers, c'est incroyable. Ça m'a donné beaucoup d'idées, quoi. J'avais déjà une idée en tête, ça me donne plus envie de faire des choses.
Ce sont donc les jeunes du lycée que vous avez pu entendre. Ils ont pu découvrir près de 200 professions qui font vivre le milieu hospitalier, une trentaine qui étaient représentées au CHT, y compris le service néonatologie.
Il y a pas mal d'infirmiers qui sont partis, donc on est tout le temps en recherche de nouvelles personnes, oui.
Et d'autant plus que justement c'est un service qui est peu connu et peu de soignants veulent venir travailler avec les enfants. Donc c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de difficultés à recruter.
En vrai, je pense que la néonatologie, elle n'est pas bien connue de la Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas, par exemple, qu'on prend en charge les prématurés ici.
Et c'est vrai que le salon nous permet justement d'ouvrir les yeux déjà aux jeunes et même aux d'autres professionnels qui se rendent compte en fait qu'on est là, quoi.
Bon retour pour l'instant des jeunes qui sont venus vous voir.
Oui, vraiment très positif. On a été surprise, des questions très intéressantes, très curieuses de découvrir.
Et les jeunes ont aussi pu échanger avec les instituts de formation, notamment l'IFPSS et l'Université de la Nouvelle-Calédonie.
En bref, avec le micro, l'école de gestion et de commerce de la CCI était ce midi au cœur des Jeudis de l'économie, en présence notamment de David Barthes, le directeur général du réseau des EGC, émission à laquelle participait également David Leclerc, responsable des écoles de la CCI, Julie Sieu, diplômée de la promotion 2004, qui travaille aujourd'hui au service RH de l'OPT, et Ariana Matelon, étudiante en première année de l'EGC, une émission retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Et puis, le salon Saveurs et Traditions a ouvert ses portes à la Maison des Artisans, route de Nouville. Plus d'une cinquantaine de professionnels vous attendront à partir de 9h pour ce rendez-vous avec des dégustations et des animations. Les gourmets seront attendus de 9h à 16h demain et samedi. Dimanche, le salon ouvrira de 9h à 14h30 et l'entrée est gratuite. Il est 18h06, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
18h07, la fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Ah ouais, le sport est fait chauffer les moteurs. Le rallye de Nessadio à Bouraille, c'est samedi, le deuxième rallye de la saison après celui de Tomo Valle au mois de mai dernier. Cette fois, 14 équipages seront présents et ils ont rendez-vous sur la propriété Bouffnèche à Nessadio. Au programme de la journée, 7 spéciales dès 8h et jusqu'à 15h30. Nouveauté cette année, non pas une, mais trois zones spectateurs. Romain Léandro est le président de l'ASA. C'est l'association sportive automobile de Nouvelle-Calédonie.
On avait fait déjà un petit peu l'année dernière une zone spectateur. Là, on en a fait deux de plus. Donc après, c'est pas vraiment une nouveauté, mais des nouveaux endroits à voir, ouais, pour les spectateurs, avec possiblement des sauts à certains endroits pour certains pilotes. Donc ouais, ça devrait être joli. Par contre, à savoir qu'il faudra rentrer sur la spéciale avant 6h. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Mais bon, c'est des belles zones spectateurs et les gens verront des beaux passages. Ce rallye-là, les pilotes l'apprécient parce que c'est une spéciale tout à fait différente de Tomo, qui est beaucoup plus rapide à certains endroits, beaucoup plus roulant. Donc ça change carrément le rallye et les pilotes apprécient cette spéciale. Donc ouais, ça se présente très bien pour le moment.
Et le rallye de Nessadio à Bouraille, c'est donc samedi, premier départ à 8h. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Pierre.
La nuit prochaine, le ciel se dégagera franchement sur l'ouest, offrant de belles éclaircies et un beau ciel étoilé. Sur les autres régions, quelques averses resteront possibles, surtout vers le sud-est et très localement sur les Loyautés. Le vent, lui, perdra en intensité au fil de la nuit. Il s'orientera à l'est, parfois nord-est, soufflant autour de Dineux sur les Loyautés et l'extrême sud. Sur la pointe nord, il restera au sud-est à la même intensité. Les températures minimales seront en légère baisse, entre 19 et 21 degrés dans l'ensemble, mais plus fraîche sur Ouvéa, Lifou et l'île des Pins avec 17 à 18 degrés. Sur l'ouest et Marais, il fera encore plus frais, entre 14 et 16 degrés. Demain matin, retour d'un franc soleil sur la plupart des régions. Quelques nuages glisseront sur le sud et l'est sans gâcher l'impression de beau temps. Le vent restera faible et souvent variable autour de 5 nœuds, seules exceptions sur la pointe nord et Bélep où il restera au sud-est proche de 10 nœuds et sur l'île des Pins où il s'orientera au nord à la même intensité.